Voilà, je suis venu à Angers, je crois que c'était en 1979. Certains n'étaient pas nés, peut-être. Oui, j'étais à cette époque, j'étais dans l'Assemblée de Dieu de Niort. J'y suis resté 7 ans. Puis de là, nous sommes partis à Valence, dans la Drôme. De la Drôme, nous ne sommes restés qu'une année. Nous sommes retrouvés en Ariège, à ne pas confondre avec l'Ardèche. C'est vrai que les Français confondent les deux départements. C'est une question phonétique et puis c'est surtout une question de chèvre. Donc, j'ai pas demandé l'autorisation à mes frères et sœurs de l'Ariège. Donc, ça se situe entre Toulouse et la principauté d'Andorre. En général, les Français connaissent la principauté d'Andorre. Ils y ont fait un tour, un jour ou l'autre. Et ils sont revenus le coffre plein. Voilà. Donc, j'ai pas demandé l'autorisation à mes frères et sœurs de l'Ariège. Donc, nous avons dans l'Assemblée les Mirapiciens, les Lalanéciens, les Apaméens et les Fuxéens, ces 4 tribus. Voilà, nous en sommes encore à nous nourrir des baies sauvages et de la pêche et de la chasse. Voilà, donc, ce sont des habitants de Mirepoix, de Lalanée, de Pamiers et de Foix. Voilà, on les appelle comme ça. Donc, j'aurais dit que j'étais avec vous aujourd'hui. Ils m'ont pas dit de vous saluer, mais je le fais quand même. Et je leur dirai au retour que je leur ai transmis leur salutation. Voilà, je suis très heureux de me retrouver au milieu de vous. C'est vrai que c'est agréable et je fais le tour de France. Alors, parfois, quand on me voit arriver, on me demande s'il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est le frère nous avait invité, c'est vrai, il y a plusieurs années maintenant. Et on a dû reporter à plusieurs reprises. J'aimerais attirer votre attention sur un texte du livre de Zacharie, du prophète Zacharie, chapitre 4. C'est un texte que tous les pentecôtistes connaissent par cœur. Zacharie, chapitre 4, verset 1, et bien sûr nous lirons jusqu'au verset 7. Et c'est le verset 6, bien sûr, qui attire particulièrement notre attention ce matin. L'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit, me dit, c'est la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Et donc, vous connaissez très très bien ce verset, il est dans les conversations de nombreux frères et sœurs de Pentecôte. C'est par mon esprit que les choses se feront, c'est par mon esprit que la volonté de Dieu s'accomplira, et c'est par mon esprit, dit le Seigneur, au travers du prophète, que le chantier va aboutir. Et nous croyons que c'est encore par l'esprit de Dieu que les choses se feront, que l'œuvre de Dieu se fera. À vrai dire, si j'avais été à la place du prophète, j'aurais pas très bien compris la vision, moi non plus. Qu'est-ce que tu vois? Ben, je vois un chandelier, et qu'est-ce que ça te dit? Ça me dit pas grand-chose. Il est évident qu'une image sans légende, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. Mais là, Dieu a mis la légende tout de suite sous la photo et sous l'image, et il a évoqué la présence et l'association, la communion du Saint-Esprit avec Zorobabel et en vue d'un très très grand chantier. Ce chantier consistait à reconstruire le temple de Jérusalem qui avait été détruit par les armées de Nebuchadnezzar bien avant le siècle qui précédait. Et on était revenu, bien sûr, sous l'édit de Cyrus. Par la suite, on était revenu à plus de 40 000 personnes étaient revenues pour relever Jérusalem, relever l'autel, reconstruire le temple. Alors l'autel, ça a été vite fait, on a vite reconstruit, on a fait quelques sacrifices, mais la fête a vite tourné à la dépression, parce que les voisins n'ont pas été très très contents, et ils ont reconnu quelques ambitions chez ces Juifs, et ils ont tout de suite écrit à l'empereur de l'époque, ils ont dit « là, il y a une menace, il faudrait faire cesser les choses ». Cyrus était mort, l'empereur Cyrus était mort, donc c'était son successeur Cambyse, et Cambyse n'était pas spécialement favorable aux Juifs. Donc cette lettre tombait bien, il a répondu, faites tout cesser, on arrête tous les travaux. Et les travaux sont restés comme ça en plan, comme on dit familièrement, on n'a plus rien fait, alors on s'est occupé de son petit jardin. Les salades, les radis, les carottes. L'autre s'est occupé de la salle de bain, de la cuisine, de la maison. L'autre s'est occupé de son petit chantier, etc. Et on a fini par se faire à l'idée que le temple pourrait rester comme ça, longtemps, en ruine, pourvu qu'on s'occupe de ses propres affaires. Et tout à coup, sorti un peu de nulle part, j'allais dire, deux prophètes arrivent sur le devant de la scène, Aggé et Zacharie, et ils disent « c'est le temps de construire le temple de l'Éternel ». Oui, mais on a déjà essayé et ça n'a pas marché. C'est gentil, mais il nous faut des sous, il nous faut des crédits. Et là, les milliers, dizaines de milliers de personnes qui sont revenues de l'exil ne sont pas spécialement parmi les plus fortunés. Les plus fortunés sont restés à Babylone. Et ceux qui sont revenus, c'est pas ceux qui ont les sous. Donc déjà, ça pose problème. Ensuite, l'immensité du chantier, c'est énorme. Il y avait probablement encore dans Jérusalem des ruines, les séquelles, j'allais dire, de l'invasion babylonienne. Il devait y avoir beaucoup de désordre dans la ville. Et c'était un chantier très important que de reconstruire le temple, puis par la suite reconstruire Jérusalem. Et là, Dieu a une parole d'encouragement. Il dit, ça ne se fera pas seulement avec vos bras, ça ne se fera pas seulement avec la truelle, la pioche, la pelle, mais ça se fera aussi et certainement surtout par mon esprit. Et quand l'esprit de Dieu est là, ça va mieux. Quand l'esprit de Dieu est à l'œuvre, c'est quand même plus facile. Il y a déjà la motivation qui change. Il se passe quelque chose dans le cœur et même si on a peu de ressources, peu de moyens et peu de talent, la motivation est très forte quand il y a l'association et la communion du Saint-Esprit. J'aimerais ce matin nous conduire ensemble dans une réflexion. C'est le rôle et la place de l'Esprit de Dieu, en effet, dans l'œuvre de Dieu. Je trouve que les mouvements évangéliques mettent beaucoup l'homme en avant, pour X raisons, mais quand même, l'œuvre de Dieu reste l'œuvre de Dieu. Et certes, nous y sommes un petit peu pour quelque chose, mais pour la plus grande part, c'est l'œuvre de Dieu. C'est le travail de son esprit. Et dans toute l'histoire de la révélation et de l'œuvre de Dieu, on voit l'esprit, la place et le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit apparaît dès le début de la Bible, dès les premiers versets. Il était là, planant à la surface des eaux. On le retrouve dans le livre des Juges, et là il est à l'action et d'une manière assez visible. Il est dit, par exemple, « L'Esprit de Dieu vint sur lui, sur le juge Othniel. L'Esprit de Dieu s'empara de Gédéon. » On voit un peu, Gédéon qui n'était pas spécialement un leader charismatique de premier plan. Il lui est demandé de devenir chef militaire, chef d'état-major même. Et il n'a pas fait d'autres études militaires. Il n'a pas encore dans sa carrière des succès. Et quand l'ange de l'Éternel vient le chercher, il dit non, pas moi, je suis le dernier, la famille est la dernière, la tribu est la dernière, donc quand tu viens me chercher, c'est vraiment ce qu'il y a de plus bas. Tu as dû te tromper. Et l'ange de l'Éternel va l'encourager. Il est dit dans ces récits qui concernent Gédéon que l'Esprit de Dieu s'empara de Gédéon. et de ce garçon un peu timoré ou sur la réserve, l'Esprit de Dieu va en faire un héros. Voilà, même si nous avons conscience de notre grande faiblesse, de nos limites et d'un tas de choses qui nous gênent ou gênent notre marche, l'Esprit de Dieu peut faire de nous des héros. Alléluia. Et des personnes qui ont du succès. L'Esprit de Dieu est descendu sur Jephté. Après, il dit, l'Esprit de Dieu poussa Samson à l'action, et on sait ce que ça a donné. Et l'Esprit de Dieu fonça sur Samson. Dans le texte, l'original, il dit, il fonça sur Samson. Vous voyez, un peu quand l'Esprit de Dieu s'empare de quelqu'un, ça change. Ça change beaucoup de choses. L'œuvre prophétique dans l'Ancien Testament trouve son origine dans l'inspiration de l'Esprit, puisque l'apôtre Pierre dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et d'ailleurs, Pierre ne nous donne pas l'autorisation d'interpréter n'importe comment les prophéties. Il dit, ces hommes ont été poussés par l'Esprit de Dieu et ils ont parlé de la part de Dieu. Et on sait qu'un grand nombre d'entre eux ont annoncé, par exemple, la venue du Messie et beaucoup d'autres événements, et ils l'ont annoncé, ou ils ont décrit cette venue avec beaucoup de détails qui sont très étonnants. Comment le prophète Michée pouvait-il savoir que le Messie allait naître à Bethléem ? Il fallait être dans les papiers du ciel. Comment pouvait-on savoir, David pouvait-il savoir que Jésus allait mourir crucifié, qu'on allait lui donner du vin mêlé de miel, de myrrhe à boire, enfin, etc. Tous ces petits détails. Et surtout qu'on allait se partager ses vêtements, tirer au sort sa tunique, 10 siècles avant, en gros. Comment David pouvait-il savoir ce détail? Et les Romains n'avaient pas appris la prophétie. Quand les soldats au pied de la croix ont tiré au sort les vêtements, se sont partagés les vêtements, ont tiré au sort la tunique, ils ne connaissaient pas le psaume 22, je pense. C'était des légionnaires romains, très très loin du texte biblique. Et pourtant ils l'ont fait, exactement comme c'était écrit. Certains théologiens se sont amusés à calculer donc le nombre de prophéties. Ils disent qu'il y a 300 ou 330 prophéties concernant le Messie qui se sont accomplies ou directement ou indirectement. Et vous savez que les gens qui aiment les mathématiques aiment les problèmes. Il y a des gens qui fuient les problèmes, mais ceux qui aiment les mathématiques se font un plaisir de chercher des problèmes. Et donc il y a un mathématicien qui s'est intéressé à cette question. Combien de probabilités y avait-il pour que 8 prophéties s'accomplissent en une personne de l'humanité? Jamais on va penser des choses pareilles, mais il faut être mathématicien pour aimer ce genre de questions. Et donc, il s'est lancé dans de savants calculs et il est arrivé à la conclusion qu'il y avait une chance sur 100 millions de milliards, 10 puissance 17, une chance, pour ceux qui se souviennent de leur cours, une chance sur 10 puissance 17, 100 millions de milliards, pour que ça arrive. Pour 8 prophéties. Mais c'est plus de 300 qui se sont accomplis. Donc, ils ont quand même été bien inspirés. Pour visualiser la chose, imaginez que je prenne l'un d'entre vous, que je lui bande les yeux, et je recouvre la France de pièces d'euros sur plusieurs dizaines de centimètres. Je n'ai pas fait le calcul exact, mais ça fait plusieurs dizaines de centimètres. Et sur une pièce, je la raye là, avec une pointe, je raye une pièce de 1 euro. Il y en a partout, sur toute la France, sur plusieurs dizaines de centimètres. Vous avez les yeux bandés et vous devez trouver cette pièce. Il y a autant de chances que vous la trouviez que 8 prophéties s'accomplissent en un homme de l'humanité, dans l'histoire de l'humanité. C'est l'Esprit de Dieu qui a parlé au travers de ces hommes et qui leur a donné un certain nombre de détails qui montrent bien aussi que Jésus est le vrai Messie, voulu de Dieu et envoyé par Dieu. La rédaction de la révélation de Dieu, c'est-à-dire la Bible, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Certes, les détracteurs vous diront que c'est des hommes qui l'ont écrite. C'est vrai. Et même des hommes ont puisé à des sources totalement humaines, tout à fait humaines. Même ils ont puisé à des sources que peut-être on ne recommanderait pas dans certains cas. Mais l'Esprit de Dieu les a inspirés dans la rédaction de ces 66 livres et il les a inspirés d'une manière admirable, car quand on relit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, on voit bien qu'il y a une science, une sagesse, une cohérence, une harmonie. Tout se tient, tout est imbriqué, tout est logique. Et au milieu de tout ça, il y a un véritable fil rouge qui relie tous les éléments. Pourtant, quand Paul a écrit ses lettres, je ne suis pas sûr qu'il était toujours conscient qu'il écrivait la parole de Dieu. Peut-être en certains cas, mais dans d'autres cas, je ne pense pas. Bon, quand il a écrit aux Romains, Éphésiens, Colossiens, c'est sûr que là, c'est particulier. Mais quand il a écrit à Philémon pour essayer de réconcilier le maître et son esclave qui venait de se convertir, je ne suis pas sûr que Paul avait conscience d'écrire la parole de Dieu. Il est là dans une mission diplomatique. Philémon a perdu son esclave Onésime, Onésime a filé, il a certainement emporté quelque chose avec lui. Il se retrouve à Rome, parce que là, dans la capitale, il passait inconnu. Qui irait retrouver Onésime dans la capitale romaine? Et c'est vrai qu'on ne passe pas inaperçu sous les yeux du Seigneur. On peut aller à l'autre bout du monde, Dieu peut nous y trouver. Je connais un garçon qui est parti d'Agen il y a très longtemps, et il est allé à la capitale, à Paris. Il a dit là, personne ne me connaîtra. C'était un fils de chrétien. Et il voulait surtout pas rencontrer de chrétiens. Il voulait vivre sa vie tranquille. Alors il a trouvé un appartement à Paris, dans un immeuble. Et puis un jour, il a croisé la concierge. Et il s'est trouvé que cette concierge, c'était une chrétienne de Pentecôte, qui lui a rendu témoignage. Quand Dieu veut nous retrouver, il nous retrouve. Hein. Et Dieu sait faire comme il sait comment faire. Alors, Onésime a rencontré Paul dans cette capitale. Ils se sont croisés en prison, ou en captivité, on va dire. Et là, Paul a parlé à cet esclave, Onésime, et il l'a amené à Jésus-Christ. Peut-être avait-il eu l'occasion de le croiser en Asie mineure, chez Philémon. Peut-être l'a-t-il reconnu. Il dit, qu'est-ce que tu fais là ? Et Onésime s'est converti. Et voilà, Onésime s'est confié à Paul. Et il lui a dit comment il était parti de chez Philémon. Donc Paul est maintenant complice. Il faut qu'il trouve une solution pour sortir de l'impasse. Et il décide d'écrire un billet diplomatique à Philémon. Et c'est admirable, si vous voulez apprendre la diplomatie, il faut lire la lettre de Paul à Philémon. Je fais l'éloge de ta foi, je connais bien ta foi, tout le monde en a entendu parler, c'est formidable. Alors maintenant, on va passer aux choses pratiques. J'ai rencontré un certain Onésime, etc., etc., et c'est admirable. Et je me dis, est-ce que Paul, quand il écrivait ça, pensait qu'il écrivait la parole de Dieu? Je pense pas. Il était dans sa mission, la diplomatique. Chaque prédicateur pourrait vous raconter ce que je vais vous dire maintenant. Il est arrivé tant et tant de fois que le prédicateur passe quelques heures dans la semaine à préparer sa prédication. Il a lu 3-4 commentaires. Il a cherché dans la concordance thématique en grec. Il a cherché ailleurs et il a construit à partir de la pensée qui s'imposait à son cœur. Il a construit un message. Il a bien réfléchi. Une introduction. Il a cherché l'accroche. Il a cherché le développement. Et puis surtout la conclusion et l'appel. Tout est bien ficelé, il arrive le dimanche matin, sûr de lui, il dit là, je le tiens ce message, c'est bon. Et il est dans ma tête, il est dans mes tripes, il est partout. Et puis il partage cette prédication, il n'a jamais pensé à personne. C'est sur son cœur, ça brûle sur son cœur, il l'exprime. Et à la sortie du culte, il y a quelqu'un qui vient dire, c'était tout pour moi, c'était ma vie. C'est exactement où je suis. C'était une parole extrêmement pertinente. À aucun moment, le prédicateur peut vous dire, oui, je savais, à ce moment-là, quand j'ai lu le deuxième commentaire, devinez, j'ai vu que c'était pour vous. Jamais. Et c'est arrivé des quantités de fois dans la vie des prédicateurs. Cette articulation entre l'humain et le Saint-Esprit, on est incapable de l'expliquer. On ne sait pas où ça commence, on ne sait pas comment ça se fait, mais c'est là. L'Esprit de Dieu, même d'une manière cachée, secrète, est à l'œuvre, et ô combien son action est efficace. Ô combien elle est pertinente, et ô combien nous en avons besoin. Le Saint-Esprit, il était là aussi avec Jésus-Christ. Il était là à la naissance, puisque c'est par la vertu du Saint-Esprit, ce qui fait sourire les athées, mais c'est par la vertu du Saint-Esprit que Marie a donné naissance, a engendré le Messie. Le Saint-Esprit était présent au baptême de Jésus. Il est descendu même d'une certaine façon, visible, nous est-il dit. Il était présent aussi à la résurrection, puisque l'apôtre Paul dit « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Et l'œuvre de régénération dans notre vie, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. On a chanté tout à l'heure un cantique qui m'a ramené à des réflexions que je m'étais faites il y a quelques années en arrière. Quand on découvre le Seigneur, qu'on découvre le message de la grâce et tout, alors on est tout enthousiaste, on est bouleversé par l'amour de Dieu et on a envie d'offrir au Seigneur le meilleur. Et la meilleure des motivations, on dit « Seigneur, oui, je veux être tout à toi, je veux être parfait, je veux être saint, juste, droit, aimant, doux, patient, tout ça, je le veux. Et je vais tout faire pour y arriver. » Et très très vite, on déchante. Très très vite. Pourtant, on y a cru, mais on s'aperçoit qu'il y a une deuxième nature en nous, pas très bonne d'ailleurs, pas très portée au bien, et qui se réveille de temps en temps, et qui rappelle qu'elle est là. L'œuvre de régénération et de sanctification est une œuvre du Saint-Esprit. Tout le reste, c'est religieux. C'est de la religion, de la morale, mais la vraie sanctification, c'est celle que le Saint-Esprit opère dans notre vie. C'est le seul changement qui a de la valeur aux yeux de Dieu. La Bible est formelle en ce qui concerne notre cœur. Elle dit qu'il est porté au mal. Comme les Éthiopiens ne peuvent pas changer la couleur de leur peau, alors les Français peuvent, mais les Éthiopiens non. Comme un Éthiopien ne peut pas changer la couleur de la peau, dit le prophète Jérémie, vous qui êtes habitués au mal, vous ne pouvez pas faire autre chose que le mal. Et même quand vous faites le bien, la motivation n'est pas toujours bonne. La chair est retors, calculatrice. Elle sait anticiper, elle sait chercher. Nous sommes incapables d'amélioration. Bon, je ne suis pas contre la morale, ça aide quand même. Et je ne suis pas contre la bonne éducation, c'est quand même bienfaisant. Mais la vraie sanctification et régénération, celle du cœur, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus a dit qu'on ne pouvait pas voir le royaume de Dieu, ni y entrer sans l'action de l'Esprit de Dieu. Et il a dit ça à un grand théologien, Nicodème. Il dit, sans l'action de l'Esprit de Dieu, rien n'est possible. Et puis dans l'Épître aux Romains, Paul parle, il explique l'œuvre de sanctification de l'Esprit. Le chapitre 8, disait M. de la Palisse, suit le chapitre 7, évidemment. Et dans le chapitre 7, Paul met en avant le « je » et le « moi ». J'ai bien envie de faire ce qui est bien, mais je n'y arrive pas. Je ne voudrais pas faire ce qui est mal, et pourtant je le fais. Il faut arriver au chapitre 8 pour entendre le cri de victoire de l'apôtre Paul. À la fin du chapitre 7, derrière, il dit « Qui me délivrera ?» Il pose la question « Qui me délivrera du corps de cette mort ?» Et certains disent qu'il fait allusion à une histoire, dans certains cas de criminalité, on attachait le cadavre au criminel. Il était sur le dos. et bien sûr la putréfaction du cadavre. Oui, ça fait... Pour un dimanche matin, c'est pas une belle image. Et la putréfaction du cadavre a entraîné la mort du criminel lentement et sûrement. Qui me délivrera du corps de cette mort qui m'est attachée, cette vieille nature portée au péché, cette vieille nature portée au mal, qui m'en délivrera? Et c'est là que l'apôtre Paul parle de l'œuvre du Saint-Esprit dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi de la mort. Il y a deux lois incontournables. La loi de la mort, c'est celle de notre vieille nature portée au péché. Et il y a la loi de l'esprit de vie qui, elle, nous tire vers le haut, nous pousse vers Jésus-Christ. D'habitude, j'ai avec moi un bouchon de champagne dans la poche. Là, non, j'en ai pas. Je vais faire sans. Imaginez donc que j'ai ce bouchon. Je le jette vers le haut, vers le toit. Que va-t-il faire? Il retombe. À Angers, c'est comme à Foix, c'est pareil. La loi de l'attraction terrestre fait que le bouchon retombe. Maintenant, imaginez que j'aille faire ça sur le bord de la Loire, sur les rives de la Loire. Je jette le bouchon vers le haut. Évidemment, il retombe. Il retombe dans la Loire. Et là, que fait-il? Il flotte. Il ne va pas au fond de la Loire. Il flotte. Et Monsieur Archimède vous aurait expliqué comment ça se passe. Et il y a deux forces. Il y a la loi de l'attraction de la Terre qui tire vers le bas, mais il y a aussi ce qu'on appelle, donc en physique, pour ceux qui se rappellent leurs études, il y a une autre force antagoniste qui pousse vers le haut, la poussée d'Archimède. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Et il y a une force qui nous tire vers le bas, c'est la loi de la mort, la vieille nature. Mais la loi de l'esprit de vie est une force qui nous pousse vers le haut, vers Jésus-Christ, vers l'idéal. Et cette force-là, elle nous permet de surnager, elle nous permet de triompher de nous-mêmes, elle nous permet de passer au-dessus de nos travers, de nos limites, de notre fragilité. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui nous change, c'est lui qui nous transforme. Essayez de devenir plus patient. Vous allez voir comme c'est difficile. Et essayez d'aimer comme Dieu aime. Vous allez voir que c'est difficile. S'il n'y a pas le travail du Saint-Esprit, s'il n'y a pas l'œuvre de l'Esprit, vous n'y arriverez jamais. Ou peut-être deux jours. Et encore. Et c'est vrai que l'Esprit de Dieu se sert de sa parole pour agir en nous, puisqu'il écrit la parole de Dieu dans nos cœurs. L'alliance doit être écrite dans nos cœurs, pas sur les tables de pierre, et par le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, c'est vrai, utilise, j'allais dire, la vie quotidienne, le monde humain dans lequel nous sommes, pour nous faire grandir. Je prends l'exemple de la patience, puisque tout le monde connaît ce thème. Dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est... Et puis dans la liste, il y a la patience. Le fruit de l'esprit, c'est comme une orange, ou comme un pamplemousse. Il y a des quartiers, vous savez. Eh bien, vous prenez les quartiers, sur chaque quartier, vous marquez quelque chose. Alors, il y en a un, c'est quartier, c'est l'amour, quartier, c'est la joie, quartier, c'est la paix, quartier, c'est la patience. Et tout. Le fruit est complet quand il y a tous les quartiers. Je ne peux pas dire, ouais, bon, en amour, ça va. Patience, pas trop, mais en amour, ça compense. Non, non, le fruit de l'esprit, c'est de donner un fruit qui parvient à maturité, et il faut qu'il y ait tous les quartiers. Alors celui de la patience, pour y revenir, on sent bien que l'Esprit de Dieu veut le produire. Mais quand on va chercher dans Jacques, on a la méthodologie, regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. J'entends plus souvent dans la bouche des frères et sœurs Jean 3,16 que ce verset-là. Je suis pas sûr qu'il est souligné dans toutes les Bibles, d'ailleurs. Et ce travail de l'épreuve, de la tentation, de la difficulté d'une manière générale, a pour but de nous rendre plus persévérants et patients. On aimerait bien que le Saint-Esprit utilise d'autres méthodologies, que celle-là. Mais l'Esprit de Dieu se sert des circonstances pour nous faire grandir. C'est pas magique. Je voudrais dire que l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans nos vies n'est pas magique. Et même quand le Seigneur travaille dans notre vie, il utilise souvent des circonstances. Il est arrivé un pasteur aux États-Unis qui avait une secrétaire extraordinaire. Elle faisait un superbe travail et il était très content. Et dans son culte personnel, il remerciait le Seigneur pour cette brave sœur, consacrée, pertinente, efficace, etc. Jusqu'au jour où la sœur est tombée malade et il a fallu l'arrêter. Alors dans l'urgence, il a cherché une autre secrétaire, il en a eu une autre, mais celle-là n'était pas au même niveau, pas du tout. Et au bout de quelque temps, il s'est plaint auprès du Seigneur. Le recrutement n'était pas très bon. Il dit, Seigneur, ça marche pas là, ça va pas comme il faudrait. Il faut que je reprenne les lettres, il faut que je reprenne tout derrière, il faut que je surveille les fichiers, les dossiers, ça va pas. Ça va pas, je perds du temps. Et vous savez que dans ces cas-là, on est prêt à interroger le Seigneur, même à lui mettre la faute sur le dos. Et tout à coup, pendant qu'il réfléchissait, priait, méditait sur la situation, il y a comme une petite voix, ça arrive parfois, petite voix qui traverse son esprit et qui lui dit, mais rappelle-toi, il y a quelque temps, tu m'as demandé de grandir en patience. Je n'ai fait que t'exaucer. Si vous demandez au Seigneur qu'il vous fasse grandir en amour, il va vous trouver des solutions, des situations. Et ce n'est pas sûr que celui ou celle que vous allez rencontrer soit des plus aimables. Donc, il faut réfléchir avant de prier. La Bible dit, dans l'Ecclésiaste, elle dit que quand on entre dans la présence de Dieu, parfois le silence peut être bon, et qu'il faut bien réfléchir que Dieu est au ciel, que nous, nous sommes sur la terre, et qu'il pourrait nous prendre au mot. Et heureusement qu'il ne m'a pas toujours pris au mot, parce que je crois que je n'ai pas toujours mesuré mes prières. Ouais, l'œuvre de sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et ça, vous ne pourrez pas la faire à la place du Saint-Esprit. Ou si vous essayez de faire l'œuvre de sanctification à la place du Saint-Esprit, il n'y aura pas les mêmes résultats. Ça ne sera pas les mêmes résultats. La crucifixion est une mort lente. L'apôtre Paul n'a pas dit que nous avions été fusillés, d'ailleurs ça n'existait pas à l'époque. Il a dit que nous avons été crucifiés avec Jésus. Crucifiés. Vous savez qu'on pouvait rester une semaine cloué sur une croix et mourir lentement. Et je crois que notre vieille nature meurt lentement aussi. Et de temps en temps, quand elle a chatouille, elle a plus qu'un frisson. Elle a une réaction assez vive. Mais la volonté de Dieu, c'est de nous amener jusqu'à la mort complète par rapport à nous-mêmes et que Christ apparaisse de plus en plus dans notre vie. Et ça, ça ne peut être que l'œuvre de l'Esprit de Dieu. La croissance de l'Église, depuis 2000 ans, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Tout un livre y est consacré, c'est le livre des Actes des Apôtres. Et vous connaissez bien, là aussi, les pentecôtistes savent ce verset. Acte 1, 8, vous recevrez la puissance de l'Esprit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. C'est chose faite aujourd'hui. Quand Jésus a dit ça, il était à Jérusalem, et l'antipode de Jérusalem, c'est la Polynésie française. Et aujourd'hui, l'Évangile est en Polynésie française. Et il est sur toute la planète aussi. Et Luc explique comment cet Évangile est allé de Jérusalem jusqu'à Rome. Ça n'a pas été tous les jours facile. On n'a pas trop envie d'avoir les coups de bâton que Paul a eus, les naufrages qu'il a subis et tout le reste. Et j'aime bien la fin des Actes des Apôtres, le dernier mot. Alors, dans nos versions françaises, le second, c'est le dernier mot, mais aussi dans le texte grec, c'est le dernier mot, c'est sans obstacle. C'est le dernier mot, sans obstacle. Pourtant, il y en a eu des obstacles. mais avec l'Esprit de Dieu, tout a été balayé, j'allais dire, ou surmonté. Et l'Évangile, et c'est quand même emblématique, c'est symbolique, l'Évangile est allé de la ville de Jérusalem jusqu'à la ville impériale Rome et jusqu'à l'empereur Néron, puisque l'apôtre Paul a témoigné devant l'empereur Néron, qui lui a coupé la tête ensuite, mais Paul a témoigné devant cet empereur. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu, dit Luc. On sait comment, à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu sur les 120 qui étaient là, et ça a été, le feu a été allumé. Mais c'est encore l'Esprit de Dieu qui a lancé, j'allais dire, l'action missionnaire, hein, quand ils étaient en train de prier ensemble, là, à Antioche de Syrie, et tout à coup, l'Esprit de Dieu a parlé, et ça a été le départ de la mission, en tout cas dans tout l'Empire romain occidental. L'Esprit de Dieu, on le voit dans le réveil d'Éphèse, on pourrait dire que c'est là l'apogée du ministère de Paul à Éphèse. C'est là qu'on lui a porté des linges, il touchait les linges, les gens étaient guéris, etc. Il s'est passé des choses formidables à Éphèse. Et c'est là que l'apôtre Paul a connu certainement la plus belle période, le plus beau succès de son ministère. Mais ce n'était pas l'intellectualisme de Paul qui produisait ça. Ce n'était pas ses années d'études au pied de Gamaliel qui produisait ça. C'est l'Esprit de Dieu qui travaillait avec le serviteur du Seigneur. La croissance de l'Église est une œuvre de l'Esprit. Je suis très confiant dans la puissance et la souveraineté de l'Esprit de Dieu. Il peut faire des choses étonnantes. Voyez, aujourd'hui, on apprend que sur l'île de Cuba, 10% de la population est évangélique. S'il y a un endroit où on a tout fait pour éradiquer la foi, c'est bien là. Tout a été fait envers les religieux, les églises, les chrétiens. Tout a été fait pour que la religion disparaisse. C'est un vrai camouflet. 10% de la population, 1 200 000 chrétiens évangéliques sur l'île de Cuba. C'est quand même, ça fait sourire un peu. Et on se dit, dans le grand combat idéologique, et comme l'écrit un sociologue suisse, dans le grand combat idéologique du XXe siècle, celui qui a gagné, c'est le Seigneur. Ouais, c'est le Seigneur. L'Esprit de Dieu peut faire des choses étonnantes, même face aux plus grands obstacles, aux plus grandes barrières. On peut faire brûler les Bibles. On peut, enfermer les prédicateurs, faire brûler les églises. Mais on ne pourra pas ni lier l'Esprit de Dieu, ni lier le message de l'Évangile. C'est impossible. Et ceux qui s'y emploient perdent leur temps. Ils perdent leur temps. C'est impossible d'arrêter le message de l'Évangile et la puissance de l'Esprit. Il y a une vision qui m'encourage, et j'aime la lire et la relire. Dans la Bible, c'est celle des ossements desséchés d'Ézéchiel. Vous connaissez cette histoire, cette vision. Ézéchiel voit une grande vallée avec des os dispersés, des crânes par-ci, des fémurs par-là, des cubitus, des humérus, enfin que sais-je. Il y en a dans tous les sens, c'est éparpillé. Et le Seigneur dit à Ézéchiel, parle à l'Esprit. Voilà que tout à coup, il parle et les os se mettent à bouger, les têtes se mettent au bon endroit, les clavicules aussi, les ménisques au bon endroit aussi, et on reconnaît des squelettes. Enfin, le prophète reconnaît les squelettes. Mais c'est un vrai cimetière. Qu'est-ce qu'il faut attendre d'un cimetière? À part le silence. Et le Seigneur dit, parle encore à l'Esprit. Alors il parle, et voilà que tout à coup, dans la vision, la chair, les nerfs, puis la peau, et ce sont des êtres humains, mais enfin, ils sont encore inertes. Parle encore. Et là, tout à coup, c'est une armée de l'Éternel. Et Dieu fait un rapprochement entre cette vision et le climat morose des Juifs. Vous dites que vous êtes finis, cuits, perdus, abandonnés, vous ne pourrez plus rien faire, la mort a eu le dessus et il n'y a aucun espoir. Oui, mais c'est sans compter l'Esprit de Dieu. Là où il n'y a aucun espoir, là où c'est le silence le plus complet, il n'y a rien à attendre de l'avenir. Il suffit que l'Esprit de Dieu passe par là pour que la mort se retire et que la vie prenne le dessus. Et oh, combien la vie est puissante. Combien est puissante. Ce qui veut dire que dans les pires des situations, avec l'Esprit de Dieu, on peut réaliser de grands exploits. On peut vivre de grandes victoires. On peut vivre des choses extraordinaires. Et ça m'encourage en sachant que le Seigneur, avant de partir et de quitter ses disciples dans son discours d'adieu, Jean 14, 15, 16, a dit « Je vais vous laisser », il a mis la main dans la poche, « Je vais vous laisser un petit souvenir. C'est une relique que m'a donnée ma mère et vous vous souviendrez de ça tous les jours. » C'est ça ? Non, c'est pas la même Bible. Elle a dit « Je m'en vais ». Mais je vais vous envoyer un autre moi-même, un autre, comme moi. Et il sera avec vous le dimanche matin entre 10h et midi. Il sera en vous. Et il sera éternellement avec vous. Et le mot qui est employé par l'apôtre Jean, c'est le mot paraclet, donc un autre, quelqu'un qu'on appelle auprès de soi. Donc ça a plusieurs sens. Quelqu'un qu'on appelle auprès de soi. Est-ce que ce matin, pouvons réaliser qu'il est là ? Ce quelqu'un qu'on appelle auprès de soi, il est là, présent dans ce culte. Amen. Et il n'est pas sur l'estrade, il est en nous. En nous. Et il veut faire son œuvre en nous. J'aimerais poser une question en utilisant un texte qui est dans le livre de la Genèse. Alors, je ne vais pas faire de l'interprétation allégorique pour les puristes. Je fais attention. Et vous vous souvenez de l'histoire de Noé, de l'arche de Noé, de l'eau qui est tombée. Et puis, pendant une année, l'arche a flotté. Et puis, il a voulu savoir s'il y avait de la terre sèche quelque part. Alors, il a lâché des oiseaux. Et à un moment donné, il a lâché une colombe. Et il est dit que la colombe a fait un tour, elle a cherché un endroit où poser ses pieds, elle n'en a pas trouvé, elle est revenue. Alors je ne dis pas que la colombe du texte est le Saint-Esprit, surtout pas. Ça, c'est l'interprétation allégorique. Mais c'est la phrase qui m'interpelle. Elle est revenue parce qu'elle n'a pas trouvé d'endroit où poser ses pieds. Il me semble, j'ai dit tout à l'heure, que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Ça serait dommage s'il ne trouvait pas d'endroit où poser ses pieds dans notre vie. Il n'appartient qu'à nous de lui ouvrir grand notre cœur et dire « Seigneur, viens, je veux te donner toute la place. Ma vie est un peu encombrée, mais on va s'arranger tout de suite. Je vais vite faire de la place, car ce que je veux, c'est être rempli du Saint-Esprit. Car ce que je veux, c'est cette communion du Saint-Esprit, cette association du Saint-Esprit. On prie ensemble, Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons et nous te louons parce que tu as pour nous un plan merveilleux. Et ce plan, nous n'aurions jamais pu le réaliser nous-mêmes. Même dans notre vie, nous avons besoin de ton secours, nous avons besoin de ta parole et nous avons besoin de la communion de ton esprit. Seigneur, nous sommes heureux de savoir que ton Esprit est là, présent, au milieu de nous ce matin, et qu'il veut faire son œuvre dans nos vies, dans nos cœurs. Il veut faire son œuvre dans notre être intérieur, dans nos pensées, dans nos raisonnements. Il veut nous changer, nous transformer et nous rendre semblables à Jésus-Christ. Il a commencé cette œuvre et je crois qu'il va la poursuivre et nous désirons, c'est notre prière, qu'il la poursuive. Nous, Seigneur, tu as fait de nous aussi tes témoins, tes disciples. Et notre prière, c'est que notre témoignage soit pertinent dans notre génération. Notre prière, c'est que notre témoignage soit efficace dans notre génération. Et pour cela, nous reconnaissons que nous avons besoin de l'onction de ton esprit. Nous avons besoin de la puissance de ton esprit. Nous avons besoin de la communion de ton esprit. Oh, viens ce matin, Seigneur, et trouve l'accès de nos cœurs libres. Viens, Seigneur, au milieu de nous ce matin, et viens remplir nos cœurs. Viens remplir nos vies, viens remplir nos âmes. Renouvelle en nous cette soif de communion avec toi, cette soif de ta présence, cette soif de ton esprit en nous. Seigneur, merci pour les encouragements de ta parole et nous voulons te laisser agir dans nos vies. Amen. Amen. Amen.